Vivre FM podcast.
9h-10h,
à chacun son sport sur Vivre FM.
Cécile Hernandez-Cervelon,
Renaud Good.
À chacun son sport, comme tous les samedis matins. Bienvenue à tous. J'espère que vous vous êtes bien réveillés devant une tasse de café, de thé ou de chocolat ou un bon jus de fruits frais. Aujourd'hui, nous recevons Timothée Adolphe, athlète multimédaillé européen, mondial et on espère bientôt paralympique. Bonjour Timothée.
Salut Renaud.
On se connaît bien, mais aujourd'hui, on va pas parler que de votre carrière athlétique, on va aussi parler d'un livre qui est sorti à votre sujet. Et puis, à vos côtés, Lise, votre compagne. Bonjour,
bonjour.
Lise. Qui va nous parler aussi un petit peu de Timothée sur... comment Timothée a évolué peut-être au quotidien, au fur et à mesure des années, comme quoi le sport peut aussi permettre de peut-être socialement évoluer, changer. Bref, plein de petites choses que, on va pas rentrer trop dans les détails, mais plein de petites choses qui peuvent être très intéressantes pour nous ce matin. À chacun son sport, bienvenue à tous. On se retrouve donc avec notre invité du jour, Timothée Adolphe. Timothée Adolphe, vous êtes athlète, vous avez 26 ans, mais ce matin je suis un petit peu feignant et c'est vous qui allez vous présenter. Alors dites-moi tout sur votre carrière d'athlète tout d'abord.
On va dire que j'ai repris l'athlète moi en 2011.
Ouais.
En fait j'ai repris, on va dire... très simplement, où je voulais retrouver la piste et retrouver simplement le fait de courir. C'est Artemon Atunguimana qui m'a offert ma chance, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que...
Votre entraîneur au PUC, hein, Paris Université Club.
Exactement. Ça faisait un moment moi, que je recherchais à reprendre l'athlète, ce que j'en avais fait quand j'étais plus jeune dans les Yvelines, au club de Guyancourt, de mes 11 ans à mes 14 ans en gros. Et suite à un déménagement, je n'avais pas retrouvé de structure qui voulait accueillir un handisport.
Alors, handisport, on a oublié de préciser, vous êtes non-voyant, mais c'est un petit peu les accidents de la vie qui vous ont rendu non-voyant.
C'est un peu ça, je suis un petit peu casse-cou, on va dire, sur les bords. Et donc voilà, suite à différents accidents, en fait à 3 ans, 6 ans, puis à 19 ans, j'ai totalement perdu la vue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois plus rien. Moi, j'estime que c'est aujourd'hui un avantage dans le sens où quand on parle de choses visuelles, ça me parle.
Voilà, parce que vous avez vu durant votre enfance.
C'est ça, j'ai pas vu, j'ai jamais vu normalement, on va dire, mais j'ai eu un petit potentiel visuel, c'est-à-dire un 1/20. Donc pas grand-chose, sauf que je l'exploitais très bien. Je dessinais, je faisais du vélo, du roller, je jouais au basket, enfin tout ça tout seul. Jeux vidéo, enfin... Rien d'anormal en fait, et c'est vrai que j'avais un potentiel visuel très léger, mais que j'utilisais très très bien, je forçais beaucoup.
Et ça vous empêchait pas de faire du sport?
Non, pas du tout, au contraire.
Voilà. Donc en 2011, vous reprenez l'athlétisme pour ensuite très rapidement atteindre le haut niveau.
Exactement, fin 2011 déjà, je suis présélectionné pour les Jeux de Londres. On va dire que à l'époque j'avais un petit niveau par rapport à celui que j'ai aujourd'hui. Au final, c'est vrai que c'était une année olympique, et vu que je reprenais on avait qu'un an pour préparer les Jeux, donc le volume d'entraînement a été augmenté pour arriver sur une préparation olympique, paralympique. On va dire raisonnable, sauf que mon organisme, il était pas prêt, on va dire, à encaisser cette charge d'entraînement. Et du coup, c'est vrai que ça a été une année compliquée parce que j'ai été souvent blessé. Donc j'avais fait les minima IPC.
C'est le Comité Paralympique International.
Exactement, c'est l'équivalent du CIO, ouais, si on veut, pour les valides.
Donc cette déception par rapport aux Jeux de Londres en 2012, mais vous avez bien rebondi en ayant une médaille de bronze au championnat du monde à Lyon en 2015 sur 400 mètres. Et puis vous êtes double champion d'Europe sur 200 et 400 mètres.
C'est ça.
De nouveau médaillé mondial sur 400 mètres à Doha en 2015. Et puis cette année, le grand objectif, c'est les Jeux Paralympiques de Rio en 2016.
Exactement.
C'est monter sur le podium et voir plus.
Bah oui, forcément, quand on s'entraîne et qu'on sait en plus qu'il y a de la place, forcément, on vise l'or. Maintenant, on est plusieurs à viser l'or et à aspirer à cette place sur la plus haute marche du podium. Moi, j'ai à cœur de faire tomber les Brésiliens chez eux. Eux, ils auront à cœur de gagner un titre chez eux et devant leur public. Donc voilà, il y a des fortes volontés de chaque côté. Et je pense que je suis pas le seul à vouloir les faire tomber chez eux. Donc voilà, il y a la place de le faire. Maintenant, on pourra dire ce qu'on veut aujourd'hui et débattre sur est-ce que j'ai les chances ou pas d'y arriver. Et certains vous diront oui, d'autres non. Aujourd'hui, j'ai plus qu'à travailler et d'être prêt le jour J parce que voilà, c'est rien ne vaudra la performance sur la piste. Hein.
On rappelle que la compétition se déroulera du 7 au 18 septembre à Rio et donc vous courez avec un guide puisque vous êtes non-voyant. Pour la petite info, vous avez battu le record d'Europe du 200 mètres non-voyant il y a une quinzaine de jours lors des championnats de France Interclub. Vous avez couru le 200 mètres en 23 secondes, si je ne me trompe pas.
En 23-0-0. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'aspire à descendre sous les 23 et à faire un 22. On serait les premiers Européens à le faire. Et donc, c'est vrai que ça me tient à cœur et puis ça nous rapprocherait vraiment de la crème de la crème. Même si aujourd'hui on peut considérer qu'on en fait partie, parce qu'on fait partie du top 5 mondial. Mais si on veut aller et si on veut prétendre à une médaille sur 200, en tout cas, il faudra aller chercher les 22-80. Donc on s'en rapproche. Mais,
un chrono 22-80 qui, comme votre chrono sur 400 mètres en 52 et quelques, je n'ai plus le bon centième en tête, vous classerez parmi les très bons valides en athlétisme. On a fait un petit peu le tour de votre carrière d'athlète de haut niveau. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu votre itinéraire. Y a l'athlétisme, vous êtes en plein dedans parce que c'est votre passion. Je dirais pas que c'est votre métier, mais ça vous occupe beaucoup de votre temps. Mais comme tout gamin, vous avez pratiqué d'autres sports, vous avez eu d'autres passions. Notamment la musique. Et moi, ce qui m'intéresserait par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que être sportif de haut niveau, ça ne veut pas dire être déconnecté de la réalité et on ne sort pas forcément de nulle part. On est un gamin, on est un être comme tous les autres avec ses passions, ses problèmes, ses soucis. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu votre adolescence et comment, en parallèle de l'athlétisme, vous avez fait votre vie.
Bon, on va dire que... Comme je le disais tout à l'heure, au début, suite à un déménagement, j'ai pas retrouvé de structure qui voulait accueillir un handisport. Donc, c'était un peu délicat pour moi. D'une part, parce que on se sent rejeté, clairement. Quand en plus on vous dit mot pour mot, j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. C'est une claque.
C'est assez dur. Hein.
Ouais, difficile à encaisser, surtout qu'on comme vous le disiez, on est dans une période d'adolescence où on cherche à se prouver des choses autant qu'à nous-mêmes qu'aux autres. Et du coup, c'est difficile. Moi, c'était d'autant plus difficile que j'étais dans une phase où je perdais vraiment totalement la vue. Et donc, en termes d'acceptation, c'est quelque chose en plus qui se rajoutait. Du coup, c'était pas mal de choses, une cumulation, donc c'était une phase de ma vie un petit peu difficile, on va dire.
Ouais.
J'étais dans une ville nouvelle pour moi, j'étais à Angers où je poursuivais mes études. Et l'intégration, contrairement en région parisienne, se déroulait pas pour le mieux.
Un petit peu plus compliqué ?
Exactement.
Pour quelle raison, à votre avis ? C'est pas plus compliqué d'être handicapé en province qu'à Paris, pourtant ?
Non, mais le regard des autres est différent, on va dire que... À Paris, y a beaucoup plus d'handicapés. Donc ouais. Les gens sont peut-être plus habitués à en voir.
On a peut-être plus l'habitude de la diversité sociale et culturelle.
Exactement.
À Paris.
En fait, y a déjà ça. Et puis il y a le fait que généralement, les jeunes, quand ils changent d'établissement, etc., sur Paris, c'est courant. Des nouveaux, il y en a régulièrement. Sur Angers, les jeunes, ils se suivent, ils sont ensemble en primaire. Au collège, etc. Et quand il y a un mec qui arrive un nouveau au lycée...
Il n'est pas forcément accepté tout de suite.
Non, et puis les groupes, ils sont déjà constitués, donc pourquoi aller en rajouter quelqu'un là-dedans, quoi. Donc,
Alors, sur quoi vous êtes rabattu, finalement, puisque le sport, à cette époque de votre vie, c'est un petit peu refusé à vous ?
L'athlétisme, du moins. Donc, je me suis rabattu sur la musique.
Oui.
une passion que j'avais déjà depuis un ou deux ans. Et puis surtout, donc la musique et le torball, qui était une autre discipline sportive, qui n'est pas paralympique celle-ci. C'est un sport co, donc pas du tout dans la même lignée que...
Toujours une pratique physique en tout cas.
Exactement, il me fallait les deux, et en fait la musique et le sport chez moi m'aident à garder un certain équilibre.
La musique, je vais insister sur la musique, donc on est plutôt sur le hip-hop et le rap.
Exactement.
Et surtout sur l'écriture, hein, voilà. Je me suis laissé dire que vous écriviez beaucoup.
Tout à fait, en fait moi à la base je suis venu à la musique par l'écriture, dans le sens où très jeune, dès que j'ai su entre guillemets écrire, j'ai écrit des nouvelles et pendant quelques temps en fait j'ai écrit 5 tomes des trucs pour enfants, et en fait il y a un moment où je bloquais, où j'arrivais plus à finir mes nouvelles, et j'ai basculé vers une écriture plus slam dans un premier temps.
C'est quoi le slam?
Le slam, à proprement dit, c'est un style a cappella, de base, je dis bien de base. C'est plus des poèmes, des...
On parle ou c'est une sorte de chant un peu parlé sur de la musique hip-hop ou rap?
En fait, à la base, il n'y a pas d'instrumental sur le slam. Ce qui s'est passé, c'est que Grand Corps Malade, que vous connaissez, ouais, très probablement, un jour a voulu sortir un disque. C'est le premier artiste slam à sortir un disque, et il s'est dit, vendre de la cappella, ce sera peut-être pas vendeur. Donc ça peut être aussi sympa si on rajoute un petit peu de musicalité là-dedans, et qu'on rajoute un petit peu de mélodie. Et du coup, il a rajouté des instruments.
Donc ça, la musique, c'est votre passion. Vous avez même un petit peu fait quelques concerts à gauche, à droite, avec votre groupe. Est-ce que c'est toujours important, cette idée musicale, de sortir un petit peu de l'athlétisme pour bien mener justement votre carrière d'athlète actuellement?
Oui, c'est vrai que c'est toujours important. J'en écoute toujours beaucoup. Maintenant, j'ai moins le temps de pratiquer par rapport à toute ma préparation. Et c'est vrai que vu que moi, ma passion par la musique passe beaucoup par l'écriture, et vu que j'ai moins le temps d'écrire, j'enregistre moins. Donc il y a moins de morceaux. Enfin, je suis beaucoup moins productif. Maintenant, c'est quelque chose que j'abandonne pas. J'espère justement après les Jeux pouvoir sortir un album, parce que j'ai un album qui est quasiment prêt, et c'est essentiellement
carrément un album après le... Donc ça serait une double carrière, athlète et...
Après, une double carrière, je sais pas, parce que j'ai pas la prétention de faire carrière dans la musique, parce que il y a un moment, effectivement, après mon échec de Londres, il a fallu que je remette beaucoup de choses en perspective, et que je fasse des choix de vie, et la musique a été quelque chose que j'ai dû mettre entre parenthèses, entre guillemets. Et donc voilà, maintenant faire carrière, j'ai pas du tout cette prétention là. Je fais de la musique, moi, pour mon plaisir, pour partager avec ceux qui veulent partager ça avec moi. Et moi, ce qui est important là-dedans, c'est de transmettre un message. Maintenant, ça marche, ça marche pas, voilà.
Je vous coupe, on va vous retrouver après la pause, Timothée, désolé. Ce matin, on parle avec Timothée Adolphe de son itinéraire. À tout de suite après la pause.
Jusqu'à 10h,
à chacun son sport,
sur Vivre FM.
Ce matin, on reçoit Timothée Adolphe, champion d'athlétisme non-voyant. On parcourt un petit peu son itinéraire, qui correspond aussi, et le fait de l'inviter, pardon, correspond aussi un petit peu à son actualité, puisque, outre le fait qu'il soit en pleine saison pour se préparer pour les Jeux Paralympiques de Rio, un livre est sorti qui s'appelle « Réussir, la détermination de Timothée Adolphe Sprinter », qui raconte un petit peu votre vie, notamment à l'automne dernier, avant les championnats du monde de Doha en 2015, et qui raconte également d'autres éléments de votre parcours de vie qui est assez riche. On l'a vu il y a quelques minutes par rapport à votre goût pour la musique, goût pour l'écriture. Comme quoi, être sportif de haut niveau, encore une fois, je le rappelle, c'est pas être déconnecté de la réalité et du fait d'avoir d'autres passions.
C'est vrai que beaucoup de personnes ont en tête c'est un sportif, donc c'est que dans les jambes ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est déjà ce livre, c'est vrai que c'était une expérience enrichissante pour moi, parce que ça m'a permis d'explorer plusieurs facettes, on va dire, de ma personnalité, de revenir sur plusieurs épisodes de mon histoire.
Écrit par Redouane Tella. J'ai oublié de le préciser.
C'est ça. Et du coup, ça permet aussi de se remettre en question, d'avoir peut-être un autre regard aussi sur se forcer à avoir une certaine objectivité sur certains épisodes de sa vie. Et donc voilà, c'était une expérience enrichissante et puis je suis assez content parce qu'apparemment j'ai appris là il y a quelques jours qu'il était en rupture et qu'il y a des demandes, donc c'est plutôt cool que le public soit réceptif.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc voilà.
J'ai l'impression que vous n'avez pas envie, mais c'est naturel chez vous de ne pas être déconnecté de ce qui se passe autour de vous. On a souvent l'habitude de dire ou de voir, mais c'est pas forcément de la faute de l'athlète en lui-même, de dire qu'un sportif de haut niveau est dans sa bulle, tout est construit dans son quotidien autour de lui pour qu'il ait le moins de soucis possible et qu'il ne se concentre que sur sa carrière. Et finalement, c'est pas forcément rendre service que d'être systématiquement dans sa bulle. J'ai l'impression que chez vous, c'est assez naturel d'avoir toujours ce regard vers l'extérieur, vers les autres et vers d'autres centres d'intérêt.
Bah, disons que je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment où il faut être centré sur l'objectif et notamment à l'entraînement, on est là pour bosser. Et
vous entraînez 8 à 9 fois, voire 10 fois par semaine.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on est en gros sur un volume de 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. Et donc voilà, il y a des moments où il faut être centré effectivement sur l'objectif et en plus, étant donné que je cours en binôme, je peux même pas dire que c'est centré sur moi-même parce qu'un binôme, c'est constitué un minimum de 2 personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de 4 guides, donc il y a 4 binômes potentiels.
Oui, parce que chaque guide correspond aussi à une distance que vous courez, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, et puis il y a un guide d'entraînement.
On peut dire ça comme ça. Après, concrètement, on fait intervenir chaque guide sur le secteur sur lequel où lui est le plus fort et le plus à l'aise, manière à ce que moi, je sois toujours, entre guillemets, dans le dur.
Et donc, il y a un temps pour l'athlétisme. Et puis après, vous arrivez à passer à autre chose, la vie de tous les jours.
Pas toujours, on va pas se mentir.
Ouais.
Mais je pense que c'est important d'avoir un regard sur l'extérieur. Et parallèlement à ça aussi, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait le choix de préparer aussi mon post-carrière, parce qu'on ne sait pas, l'athlète aujourd'hui, effectivement, ça se passe bien. J'ai connu des hauts et des bas, comme l'année dernière. Comme vous le savez, je me suis blessé et ça a mis un sacré moment avant de revenir. Je ne cache pas que pendant un moment, je me suis demandé si ce n'était pas la fin, parce qu'on n'en voyait pas le bout. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix de aussi de préparer mon post-carrière et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir Kenéo, une entreprise experte dans l'événementiel sportif qui m'accompagne et qui me permet de pratiquer ma passion aujourd'hui au quotidien.
Et qui prépare votre reconversion dans un futur plus ou moins proche.
C'est ça, je suis détaché à 80%.
D'accord. Mais votre quotidien, Timothée, il y a une personne qui compte beaucoup. Elle est parmi nous, c'est Lise. Lise, ne rougissez pas, on est à la radio, c'est pas grave. Moi, j'ai insisté pour que vous interveniez parce que je trouve ça très intéressant. Vous êtes voyante, donc vous êtes valide. C'est pas commun. Et ça fait quelques années que vous partagez la vie de Timothée. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'avoir ce rôle, pas social, mais le fait de dire à Timothée, il n'y a pas que l'athlétisme, il y a aussi la vie quotidienne. Est-ce que vous avez un petit peu l'impression de remplir ce rôle aussi ou tout se fait naturellement de sa part?
Ah non, pas du tout, tout se fait naturellement. C'est vrai que quand il rentre de son entraînement... après, il arrive à la maison et puis c'est lui qui s'occupe du repas. C'est lui.
Ouais.
Et après, il va avoir ses autres activités comme l'écriture ou comme la musique. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on ne parle pas que athlée à la maison.
Parce que vous l'accompagnez
aussi.
On
en parle beaucoup. Ouais, je suis un peu chiant là-dessus.
On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'après, il y a autre chose. On parle d'autre chose et puis on prépare les différents voyages, parce que je l'accompagne aussi sur les compétitions.
Ouais.
Mais du coup, ça nous permet de découvrir des régions, beaucoup de stades.
Oui, bien sûr.
mais non, c'est vrai que de lui-même, Timothée arrive à sortir de cette bulle de l'athlétisme. Et puis, on vit plusieurs aventures. Et puis, il arrive à intégrer les personnes qui de son entourage ou qu'il rencontre dans ses aventures sans pour autant ne parler que de ça.
Bien sûr. On va retourner le problème de l'autre côté. Faire de l'athlétisme à haut niveau, c'est une vraie passion, c'est aussi un vrai exutoire, c'est aussi une façon de se livrer physiquement, ça fait du bien mentalement. Est-ce que le fait que Timothée ait progressé dans sa démarche athlétique depuis quelques années maintenant, est-ce que vous l'avez vu progresser au quotidien? C'est quelqu'un, Timothée, quand on le voit, c'est quelqu'un qui vit, si on peut dire ça comme ça, qui vit plutôt bien son handicap. Mais malgré tout, est-ce que depuis quelques années, depuis toutes ces années où vous êtes avec lui, naturellement, il a progresser dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans son rapport aux gens et dans son rapport à lui-même.
Après, c'est vrai que...
Est-ce qu'il y a une évolution tangible entre le moment où vous l'avez connu et maintenant, dans la mesure où sa passion, l'athlète, l'épanouit?
Oui, après, c'est vrai qu'il vit en fonction de ses résultats. Donc, quand les résultats sont très positifs, ça va être très positif partout.
D'accord.
Et après, c'est vrai que quand il y a des moments plus compliqués, des résultats qui sont attendus mais qui sont pas là, ou quand même humainement avec son entourage sportif c'est pas forcément au beau fixe, après c'est vrai que ça joue aussi sur le reste.
Ouais.
Mais c'est là que j'interviens et c'est mon rôle de lui dire que ça va continuer et que faut s'accrocher parce que c'est pas facile, mais qui peut encore évoluer, qu'il y a eu des beaux moments et que ces bons moments, il va pouvoir les revivre. Mais voilà, qu'il faut s'accrocher et qu'il y a autre chose autour et que, il y a eu un moment difficile, mais c'est en vivant des échecs et puis en vivant ces moments difficiles qu'on peut en ressortir et qui devient meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. Ces moments difficiles ont moins d'intensité avec le temps.
D'accord.
Il arrive à comprendre que ça va passer et que ça empiète moins après sur ses autres projets.
L'athlétisme, Timothée, c'est un peu une école de la vie finalement.
Ouais, c'est toujours.
On apprend de ses erreurs.
On apprend de ses erreurs. Enfin, j'ai envie de dire pas tout le monde, mais je pense que ça. Moi, en tout cas, ça m'a aidé.
Est-ce que ça vous a aidé dans votre vie de tous les jours?
Clairement, moi je pense qu'aujourd'hui, et surtout la discipline sur laquelle je suis, enfin ma spécialité, le 400, je trouve que ça représente bien la vie, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B, et souvent sur 400, ça revient plus ou moins au même, vu que c'est le tour de stade.
Ouais.
Mais la vie, ça se résume un peu souvent à ça, c'est que le 400 en plus c'est une discipline où on sait qu'on risque d'avoir mal. C'est une discipline qui est très difficile et du coup pour moi ça symbolise aussi un petit peu les hauts et les bas qu'on peut avoir dans la vie, mais quand on arrive dans le creux de la vague et quand on arrive dans le bas, faut serrer les dents et faut aller jusqu'au bout.
C'est un petit peu un parcours de vie, serrer les dents, aller au bout, c'est pas simplement qu'en athlète, vous l'avez peut-être vécu directement.
Ouais, exactement. Maintenant, je pense que je l'ai vécu comme n'importe qui l'a vécu dans la vie. Personne n'a zéro difficulté.
Ouais.
Donc, oui, moi, je l'ai vécu, mais au final, on l'a tous vécu quelque part. On a tous connu à un moment ou à un autre des difficultés. Donc, l'histoire d'un homme, entre guillemets, elle est indirectement l'histoire de tous.
Ouais.
Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est... C'est paradoxal ce que je te dis, parce qu'on est tous différents et voilà, mais quelque part on est tous différents mais on est tous les mêmes aussi.
Est-ce que vous avez l'impression que votre parcours, à défaut d'être un exemple, pourrait influencer dans le bon sens des jeunes qui sont peut-être un petit peu, des jeunes handicapés ou peut-être valides aussi, hein, pourquoi pas, qui sont un petit peu paumés ou qui ont quelques difficultés et puis finalement en s'accrochant sur sa passion, que ce soit le sport ou autre, finalement ça peut permettre d'évoluer et de s'en sortir?
Bah, j'ai pas cette prétention là, mais si je peux aider, enfin c'est pour ça que je vais souvent faire des sensibilisations, que ce soit en milieu scolaire, en milieu carcéral.
Merci d'avoir anticipé ma prochaine question.
Parfait. Désolé.
Non, mais au contraire.
Mais récemment j'en ai fait une dans un centre à Brétigny pour des jeunes qui sont en reconstruction.
Brétigny dans l'Essonne.
C'est vrai que si je peux apporter un message positif à des jeunes qui cherchent à se construire, quelque part c'est toujours une petite victoire. Si on se dit on a réussi à redonner le sourire ou à aider quelqu'un à avancer, tant mieux. Et si on peut vraiment donner de l'énergie à quelqu'un, enfin moi je considère que c'est une petite victoire. Maintenant je considère pas être un exemple ou quoi que ce soit. J'ai simplement pour devise ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.
Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.
Faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci », mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Sauf que les choses, elles ne tombent pas du ciel. Sauf quand on joue au loto. Enfin, tu vois, il y en a plein qui disent « J'aimerais jouer au loto », mais non, ne serait-ce que ça, ils n'y jouent pas. Donc, ils ne peuvent pas gagner.
Voilà.
Donc, c'est plein de choses paradoxales. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a un souhait, faut vraiment se donner les moyens. Alors c'est vrai que des fois c'est pas simple parce que ça demande de faire des choix de vie, mais voilà, il y a un moment, si on veut les choses, faut se donner les moyens d'y arriver.
Ce matin on est avec Timothée Adolphe, parcours de vie d'un athlète qui a beaucoup de choses à dire sur la vie en général. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur Vivre FM,
à chacun son sport.
Renaud Goud, Cécile Hernandez-Cervelon.
On se retrouve avec Timothée Adolphe dans À chacun son sport sur Vivre FM. On a terminé il y a quelques minutes la partie précédente sur la sensibilisation que vous meniez auprès des jeunes scolaires ou autres. Lise, il y a une action à laquelle Timothée va participer tout de suite en sortant du studio cet après-midi dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une action de sensibilisation. Vous êtes partie prenante dans cette organisation. Expliquez-nous un petit peu de quoi il va s'agir.
La journée de sensibilisation se déroule au jardin du Ranelagh, dans le 16e arrondissement.
Oui.
Et en fait, c'est pour faire découvrir trois sports paralympiques, le tennis de table, l'athlétisme avec Timothée, ainsi que l'escrime.
D'accord.
Et en fait, c'est pour permettre aux jeunes scolaires et même s'ils veulent venir avec leurs parents, pour se confronter aux sportifs qui seront présents, qui font partie des meilleurs mondiaux.
Ouais.
Et comme ça, les jeunes vont pouvoir courir à côté de Timothée.
D'accord.
Défier Timothée avec, dans un premier temps, un bandeau sur les yeux pour vivre le handicap de Timothée et de se rendre compte des difficultés. Et ensuite, ça sera une course entre valides et avec les jeunes et puis Timothée et pour voir qui c'est qui peut gagner. Ça va être très sympa comme journée.
C'est toute la journée.
Donc ça, c'est le matin, c'est avec les jeunes, et l'après-midi, le grand public est le bienvenu.
Il y a de plus en plus d'actions comme celle-ci, de découvertes citoyennes, d'actions de sensibilisation. Timothée, c'est important ce type d'action parce que on a encore peur du handicap, parce que le handicap est encore méconnu et le handisport de fait.
Alors, j'ai envie de te répondre oui et non. Dans le sens où c'est vrai que ça fait des années qu'on voit qu'il y a plein de sensibilisations qui sont faites. Je pense qu'après, tout dépend du contenu de la sensibilisation.
Ouais.
Celle d'aujourd'hui, elle est intéressante dans le sens où non seulement les gens vont se mettre en situation, et après, ils vont ne plus se mettre en situation, et ils vont nous affronter, nous, avec un handicap, et ils vont pouvoir peut-être se rendre compte que c'est pas pour autant que ils sont valides qu'ils vont gagner.
Ouais.
Et donc là déjà ça va faire cogiter d'une certaine manière. Donc voilà, si simplement pour regarder ou quoi que ce soit, je trouve il y a moins d'intérêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a encore cette problématique où le handicap est trop méconnu, donc il y a une certaine forme de...
Ça progresse pourtant.
Ça progresse, on va pas se mentir, hein. Et heureusement, parce que on vient de loin, on va dire.
Ouais.
mais, euh, Bah, c'est vrai que à côté de certains pays et surtout les pays anglo-saxons, on est très en retard.
Est-ce que par rapport à ce qu'on vous a dit il y a quelques années, j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle, est-ce qu'en 2016, cette phrase serait encore possible?
Malheureusement, ici, oui.
Ouais. Ici, à Paris ou en France?
En France.
En France?
En France.
C'est-à-dire qu'un gamin qui nous écoute ce matin et qui se dit « moi, je veux devenir comme Timothée », risque de peut-être avoir un éducateur en face de lui qui lui dit, mais peut-être pas de manière si brutale, mais lui dire « mais moi, j'ai pas les compétences pour ou j'ai pas le temps pour m'occuper de toi ».
Je pense que oui. Malheureusement, ouais. Oui. Maintenant...
Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer tout ça, là? Pour être sûr que plus personne ne puisse dire ça à un gamin?
Là, tu me poses une colle. Parce que,
plus de formation, plus d'écoute, plus de médiatisation.
Bah, disons que je pense que dans les formations de base, on devrait intégrer cette notion de handicap.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, en gros, y a des formations pour être entraîneur,
ouais,
mais pas pour être entraîneur de personnes en situation de handicap. Je pense qu'aujourd'hui, les formations devraient intégrer directement ce peut-être un module handicap.
Que ce ne soit pas une option, que ça soit intégré dans la base d'apprentissage.
Voilà, et comme ça, bah, l'éducateur ou l'entraîneur, il est capable de faire face à n'importe quel public.
Ouais.
Comme on peut mettre un module personne âgée. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas parce que tu es handicapé que tu ne peux pas faire du sport. Enfin, je veux dire... Je vois pas où est la problématique. Alors,
il y a un sondage intéressant qui était paru au mois de février suite au débat solidaire dont on a parlé la semaine dernière, notamment avec Frédéric Quentin, responsable mécénat de la FDJ. Finalement, une personne handicapée, c'est à peu près comme les personnes valides. Il y a une personne sur deux qui pratique une activité physique au moins une fois par semaine. C'est relativement peu, mais voyons le demi-verre plein, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'augmenter ce chiffre, passer peut-être à deux activités par semaine ou d'augmenter au moins ce nombre de personnes qui pratiquent une fois par semaine?
Là,
est-ce qu'on n'a pas peur du regard des autres ou est-ce qu'on n'a pas d'infrastructure? Est-ce que le handicapé lui-même ne se met pas un petit peu en retrait naturellement parce qu'il dit mais moi j'ai
après,
pas ma place là?
On va pas se mentir, il y a plein de personnes handicapées qui restent chez elles, qui attendent que les allocs tombent et puis point barre. Enfin, je veux dire,
ouais,
il y en a plein maintenant.
Manque un petit peu de.
Il y a un manque d'infrastructure et il y en a plein qui demandent d'être intégrés, sauf que eux-mêmes s'intègrent pas et du coup ils acceptent pas leur handicap, donc ils peuvent pas demander non plus aux autres d'accepter leur handicap pour eux. Enfin,
c'est interactif, c'est-à-dire que la personne handicapée doit aussi faire l'effort de vouloir aller dans un groupe valide ou dans une institution valide.
Ouais, je pense. Et puis c'est enrichissant parce que même moi, je vais même plus loin dans le raisonnement. Disons que je suis pas spécialement pour les pratiques spécifiquement contre handicapés.
Ouais.
Le sport, c'est aussi une manière de s'épanouir socialement. Et la vie, c'est pas être contre handicapé, qu'être entre déficients visuels, être entre personnes en fauteuil. Enfin, la vie, c'est la diversité, la mixité. C'est se retrouver avec des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, enfin, avec tout le monde.
Lise, je rebondis sur ce que dit Timothée. La vie, c'est pas fait que pour être contre valide. Finalement,
ah
non
bah
plus.
Non, absolument pas.
Vous en êtes l'exemple.
Parce que bah, c'est vrai qu'il y a plein de moments, même si ça fait pas mal de temps que je côtoie Timothée et qu'on est ensemble, il y a plein de moments où je suis encore étonnée. Où maintenant, par exemple, il va mémoriser la maison parfaitement, même mieux que moi. Et bah, il va pouvoir se diriger. Et si je demande un objet, il va voir. Enfin, il va venir m'apporter l'objet et je vais finir par croire que bah il est totalement valide et puis bah des fois je me dis ah bah oui mais c'est pas vrai en fait, enfin j'ai tellement l'habitude qu'il soit autonome bah du coup je vois plus le handicap et puis même moi ça surprend aussi ses proches.
Mais la première fois que vous avez dit à une personne proche que votre petit copain il était non voyant, il y a eu, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a pas dit, mais t'es sûr? Comment ça se fait? T'as pas peur de l'avenir?
Les gens sont plutôt curieux en fait de rencontrer Timothée et de voir comment il évolue dans un milieu qu'il connaît pas. Mes parents en premier, et c'est vrai que Timothée passe beaucoup de temps à discuter avec ma mère notamment pour montrer son univers et puis pour.
Mais parmi vos proches ou vos amis, il n'y a pas eu d'étonnement particulier à ce que vous soyez avec.
C'est vrai que moi déjà dans mon parcours au niveau de mes études ou de
vous étiez déjà sensibilisé à ça
que je voulais faire, handicap. J'étais déjà sensibilisée au handicap. D'accord. Et ça n'a pas forcément surpris les personnes autour de moi.
D'accord.
Par contre, je sais que je connais certaines personnes qui pourraient pas.
Voilà.
Qui ont encore du mal par rapport au handicap.
Et pourquoi elles pourraient pas, à votre avis?
Parce qu'elles connaissent pas.
Ouais.
Parce que c'est.
C'est la peur de l'inconnu.
Elles connaissent pas, elles ont peur, et puis certaines personnes ont peur de casser Timothée, comme si c'était une poupée de porcelaine. Mm-hmm. Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux le toucher? Si je marche avec lui, non, il va pas tomber. Après, c'est
plein de petites choses, plein de petites habitudes
d'habitudes qui se mettent en place et dont certaines personnes n'ont pas encore assimilé ou ne connaissent pas.
On arrive au terme de cette émission, Timothée. Moi, ce que je voudrais avoir comme conclusion de votre part, c'est un message. Vous êtes arrivé à un haut niveau par vos propres efforts, par vos propres convictions, vos propres idées. Malgré tout, il y a peut-être un parcours de base que d'autres personnes pourraient suivre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez sur le plan sportif ou sur le plan social ou socio-sportif?
Alors, dans un premier temps, c'est, j'ai envie de dire, de savoir s'entourer.
Ouais.
Parce que c'est primordial, que ce soit un entraîneur, un guide ou des guides, des personnes qui soient là, qui sachent nous conseiller. Il faut savoir aussi écouter, parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est pas le tout de s'entourer, mais il faut savoir aussi écouter et recevoir ce qu'on peut nous donner.
Ouais.
Se remettre en question. Et puis, une fois que l'aventure sportive elle est partie, c'est aussi prendre du plaisir avant tout.
Parce
que s'il n'y a pas de plaisir,
le plaisir avant tout.
Dans un premier temps, après, moi, comme je disais tout à l'heure, à la base, quand j'ai repris, c'était simplement pour le plaisir de courir. Le haut niveau, il est venu, et c'est vrai que, après, moi, j'ai toujours été un compétiteur, donc de toute façon, je reprenais pour faire de la compétition. Maintenant, j'étais à des kilomètres de penser que ça m'amènerait là où j'en suis aujourd'hui. C'est un beau pari que je suis sur le point de réaliser, parce que quand j'étais petit, j'avais dit à mes parents en regardant la télé, un jour ça sera moi qui sera au jeu. je suis sur le point de concrétiser mon pari,
tous les rêves peuvent devenir réalité si on s'en donne un petit peu les moyens.
D'où la devise que je disais tout à l'heure, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Mais faut savoir s'entourer, surtout quand on a un handicap comme le mien, qui est donc la non-voyance. À partir du moment où on doit courir avec un guide, il faut savoir communiquer, il faut savoir s'entourer. Relation avec un guide, athlète-guide, c'est pas que on prend un déficient visuel, un mec qui sait courir à côté, hop, on remet un lien entre les deux et vas-y, c'est parti. C'est pas non plus comme dans une entreprise, ces deux collègues, on va les mettre ensemble, ils vont travailler ensemble. C'est pas que ça, c'est une relation qui est particulière. Il faut de la complicité, de la confiance.
Ce sera le mot de la fin, Timothée.
Exactement.
Je vous coupe de manière dictatoriale.
Ah.
Mon réalisateur producteur Jamal n'arrête pas de me faire des grands signes comme quoi je suis trop long.
Aucun problème.
Merci Timothée d'être venu. Merci Lise. Je rappelle que dès que vous sortez de ce studio, on peut vous retrouver au jardin du Ranelagh dans le 16e arrondissement de Paris. Puis on suivra au championnat d'Europe de Grosseto en Italie le parcours de Timothée à la mi-juin, et puis les Jeux Paralympiques de Rio au mois de septembre. Et puis comme d'habitude, sortez de chez vous, bougez-vous, bye bye, bon week-end.
Vivre FM, podcast.